7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins à l'heure d'été, suite de notre série Vivre en ville. Hier, nous étions à Palerme, la ville italo-orientale. Aujourd'hui, vivre dans une ville en renaissance, Medellin, en Colombie. Bonjour Najat Benrabah.
Bonjour, bonjour à tous.
On est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Vous êtes la correspondante de RFI dans la deuxième ville de Colombie, après la capitale Bogota. Medellin, pourquoi donc une ville en renaissance ?
Eh bien, c'est un peu comme un phénix. Depuis presque 20 ans, elle a eu même des prix pour son innovation, pour sa construction, pour son innovation tant d'un point de vue culturel que d'un point de vue construction immobilière. Et ça a changé la ville. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle de ce phénix.
Medellin, de l'aéroport, la route de montagne vers la ville est impressionnante. Moi, je l'ai prise, cette route. Et quand on arrive en ville, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette géographie, de la division des quartiers ?
Alors, tout d'abord que Medellin est dans une vallée. Elle est complètement entourée de montagnes et c'est un relief qui monte très vite. On est à peu près à 1500 mètres d'altitude et tout se passe au niveau de la rivière, un peu comme à Paris si vous voulez. Vous avez la Seine qui passe, et ben à Medellin, c'est le Rio Medellin, la rivière Medellin, mais pas pour le coup en horizontal, sinon en vertical. Donc tout se passe en montant vers le nord. Et sur les côtés, dans les montagnes, vous avez ici, pas vraiment les favelas, mais des quartiers qui se superposent les uns contre les autres. Donc c'est comme ça qu'aussi on sépare les strates économiques comme Medellin, c'est-à-dire les couches sociales. Les plus riches sont dans le sud, où c'est entre guillemets le plus plat et le plus moderne. Et sur les collines, vous avez les plus vulnérables et les plus pauvres.
Donc plus on monte, plus on est pauvre. 2,5 millions d'habitants dans la cordillère des Andes colombienne, et effectivement le quartier des affaires tout en bas, où il y a les familles aisées, ce sont des tours, sont des grands immeubles de 30 étages avec des appartements.
On peut même dire c'est le Manhattan colombien, vous avez un autre univers, on a une autre Colombie ici, vous le dites, les gratte-ciels n'arrêtent pas de pousser, on en a partout, il y a encore des projets en ce moment, même la pandémie n'a pas bloqué les projets, il y a de nouvelles tours, chaque fois plus modernes, qui contrastent avec les petites maisons justement de briques rouges qui font les collines de Medellin. C'est un assez grand impact quand on arrive, c'est la première chose qu'on voit.
Bienvenue à Medellin, les voisins et les voisines, surtout suivez bien l'émission. Vous retrouverez tout à l'heure sur notre page Instagram un petit quiz sur la ville en renaissance. Medellin a longtemps été associée au trafic de drogue, aux gangs armés. On en reparlera, mais pour l'instant, Najat Benrabah, on est au mois d'août et la ville vit littéralement dans les senteurs, comme tous les ans. C'est la fête des fleurs, une fête qui a son hymne.
Su historia en Medellín lo sabe, llega feria despertando a todos. Suena antiflex, huele a flores y una lágrima brota en mis ojos.
Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa, sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siempre en su casa.
Silletero, un sombrero, una trova que sale del alma, como quiero a mí.
Del barrio las flores, que viva Medellín.
Sobre la semilla crece la siguiente.
Marcha a mi casa, me voy a la feria.
Aquí cultivamos la esperanza y las flores se siembran en casa.
Medellín,
esperanza,
Medellín,
Fats Ben Arabat, vous signez le programme musical pour Medellín, la ville en renaissance, une ville qui a tant de choses à faire oublier. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Najette ?
Alors, ça, c'est l'hymne de la fête des fleurs. Chaque année, il y en a un nouveau, avec les, généralement des artistes locaux. Et on raconte Medellín, l'amour, la fierté. Les paisas, les habitants de Medellín, sont extrêmement chauvins, mais vraiment incroyable, à tel point qu'on a l'impression qu'à Medellín, on est dans une autre Colombie. Tout ce qui se passe en Colombie, c'est quelque chose, mais à Medellín, c'est autre chose. Et sur tous les sujets, que ce soit sociopolitique ou culturel. Cette fête-là, c'est leur carte postale. La ville de Medellín est aussi connue et surnommée pour être la ville du printemps éternel, justement, le bon climat pour les fleurs. La Colombie est le deuxième exportateur de fleurs au monde, après la Hollande, et le premier avec, pour les œillets. Donc c'est vraiment le symbole. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de fleuristes. Ils en produisent beaucoup, en vendent, mais vous ne verrez pas des fleurs données à n'importe quelle épouse ou femme. C'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment pour le coup. On est beaucoup plus romantique pour le coup que les Colombiens. Mais les fleurs sont un symbole très très puissant. Tant de l'amour, de la joie, de la gaieté, de la couleur.
Et qu'est-ce qui se passe alors pour cette fête des fleurs ? Parce que là, pour le coup, on voit beaucoup de fleurs.
Hein. Ah ben là, pour le coup, c'est 10 jours de fleurs partout. Les entreprises font faire des sculptures avec des fleurs. Et les silleteros, les floriculteurs, c'est-à-dire qui produisent mais aussi vendent leurs fleurs, ils ne passent pas par des fleuristes, font des chaises décorées qu'ils transportent dans la ville. Des chaises qui vont quand même de 30 kilos à 100 kilos avec des sculptures, un peu comme un carnaval si vous voulez.
Donc c'est une procession dans la ville ?
Exactement.
Qui dure des heures ?
Cette procession est le défilé de finale et qui dure à peu près 4 à 5 heures. Il y a 400 silleteros qui participent et 1 million de visiteurs. Temps nationaux, c'est la carte postale de Medellín.
L'événement de l'année.
Ah si, et on danse tous les soirs, on boit tous les soirs, on fait la fête tous les soirs, c'est 10 jours de fête.
Ah, c'est une tradition qui existe depuis combien de temps ça ?
Cette année, ce sera la 65e édition et c'est après là, au mois d'août, du 12 au 22 août.
Parce qu'à la base, en fait, les cultivateurs de fleurs, les producteurs de fleurs, avaient besoin de se faire connaître, c'était lié à un secteur économique ?
Exactement, là-bas c'était une publicité si vous voulez. Comme ils sont dans les hauteurs de Medellín, on parlait de collines au début, ils produisent sur les hauteurs parce que le climat est favorable, et ils devaient donc descendre en ville pour montrer leur production, que les gens viennent. Donc ils ont défilé sur des chaises qu'ils décoraient eux-mêmes. À la base ces chaises étaient des chaises de transport pour les malades. Et ils ont pris ça comme un transport, on va dire décoratif, ça a fonctionné, les gens achetaient et c'est resté.
Et dure toujours, voilà. 65 ans après. La ville en renaissance. Medellín a aussi, Najette Ben Arabat, un tourisme assez particulier. On va quitter le défilé des fleurs. C'est le tourisme lié à la mémoire de Pablo Escobar, le baron de la drogue. Quelle place ça tient dans la mémoire de la ville ? Peut-être juste en quelques mots, parce que cette ville, ce Manhattan colombien que vous citiez, il a été construit avec le ruissellement de l'argent de la drogue, entre autres.
Qu'on le veuille ou non, oui, il y a quand même de l'argent dans les infrastructures, dans les, certains aéroports, dans les autoroutes et dans les immeubles. Il fallait bien, entre guillemets, laver l'argent. Donc ça a servi aussi. Ce ne sera jamais dit officiellement, on n'a pas de chiffre taille, mais on se doute que du jour au lendemain, ça a poussé comme des champignons. Et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le quartier moderne de Medellín.
Voilà, et puis beaucoup de touristes qui veulent revivre, revenir sur les traces du baron de la drogue, Pablo Escobar.
Escobar a été une personne qui a influencé l'histoire de notre pays. Avant, la Colombie était connue uniquement pour son café. Quand Escobar a commencé son trafic, il a fait connaître la Colombie au niveau mondial. Cette zone est proche des garages. Des personnes disent que cette salle servait de salle de torture.
Escobar n'était pas un homme violent. Il n'utilisait pas de mots grossiers, mais il donnait les ordres. Et après, Pablo remontait profiter de sa famille.
Je ne le vois pas comme un héros et non plus comme une personne tant négative. C'est comme pour tout, quelqu'un qui a apporté du bon et du mauvais.
Il donnait des structures et du divertissement, mais pas d'accès à l'éducation. C'était juste pour favoriser son trafic de drogue et non pour les aider à évoluer.
Nous sommes à Medellín, dans la ville en renaissance avec vous, Najette Ben Arabat, correspondante de RFI à Medellín en Colombie. On est là dans le quartier chic de Poblado au sud de Medellín. C'est un extrait d'un de vos reportages. Mais sauf que cet immeuble où a vécu Pablo Escobar a été détruit il y a 2 ans par la municipalité. On a l'impression que finalement, avec une explosion, les autorités auraient voulu tout effacer.
C'est vraiment la volonté. Ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas l'effacer du jour au lendemain. Donc, mais ils tentent réellement de passer à autre chose. Comme le dit la femme dans le reportage, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Donc on le veuille ou non, c'est aussi l'ADN. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, le Medellín, ce n'est plus ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et même l'endroit où le bâtiment a été détruit, il reste bien sûr un mausolée avec des messages d'artistes, de poètes pour les victimes. Hommage aux victimes, il y en a toujours des victimes et on en trouvera tout le temps. Mais vous avez aussi des histoires liées à « moi, mon oncle a fait ci pour lui ». Moi, j'étais là pour ça. Moi, il m'a construit ma maison. Moi, il m'a donné de l'argent à, mon grand-père et ma grand-mère. Donc, c'est vraiment un dossier lourd. Donc, que font les paysas aujourd'hui ? C'est qu'ils préfèrent se l'approprier, eux-mêmes en parler, que d'attendre que les gens vraiment fassent la correspondance à Colombien égale narco égale Escobar.
Oui, parce que Pablo Escobar, ça peut sembler effectivement surprenant sur le côté positif de la mémoire d'Escobar, mais il a construit aussi dans les quartiers pauvres.
Exactement, il y a un quartier entier qui est dédié à Pablo Escobar. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à peu près un an, deux ans, il y avait même une fresque en son honneur. Là, par contre, c'est réinvesti par la mairie, qui vient par exemple de construire une école pour les enfants, qui a mis en place un service de bus et qui a essayé d'interdire, entre guillemets, les tours touristiques qui font justement l'arrêt sur ce quartier pour montrer l'hommage à Escobar. Il y a toujours encore des tours touristiques. On va voir la tombe d'Escobar, on va voir les ruines, le mausolée, on va voir le quartier Escobar, on va voir là où on l'a tué, on n'est pas sûr si c'est là où la maison où il est mort. Et ce tourisme un petit peu sombre entache complètement la carte postale de Medellín et les gens en sont fatigués, beaucoup. Donc ils font le maximum pour montrer le changement de Medellín. Ouais. Et réellement aujourd'hui, Escobar n'est plus qu'une ombre.
Ouais. Escobar n'est plus qu'une ombre. Cette fresque dont vous parliez, elle a été effacée volontairement ?
Ah oui, bien sûr.
Par les autorités ?
Oui, bien sûr. Ouais.
Et aujourd'hui, alors finalement, il reste d'Escobar des choses dans la mémoire collective, mais on n'a pas tellement envie d'en parler au quotidien.
C'est totalement ça, exactement. Et si on doit en parler, on en parle. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire raviver l'histoire et continuer à lui en faire une légende, parce que plus on en parle et plus il est là, et moins on avance. Donc c'est un peu ça pour le coup. Ouais. Mais ils ne l'effacent pas, ils savent qu'il existe, l'histoire est là, mais il faut avancer.
Et alors, les habitants de Medellín, est-ce qu'ils ont vu les séries sur Netflix, Narcos, Pablo Escobar ?
Ah oui. Et c'est pas dans le bon côté, on va dire. Ils sont pas très fiers de tout ça. Ils trouvent ça très caricatural, offensant. Donc, la première chose, je suis avec une amie ici qui est venue visiter Paris. Elle est de Medellín, native de Medellín. Ses parents ont connu cette période noire. Elle était encore petite. Mais ses parents ont vécu les attentats, ont vécu la violence. Et chaque fois qu'elle dit « Ah, je suis colombienne. Ah, Escobar !» Elle est blessée, ce qui est logique, comme tous les gens de Colombie qui sont liés à ce Escobar.
Alors, la ville en renaissance, c'est pas juste une vue de l'esprit, Najat Benrabah. La renaissance de Medellín tient à une volonté politique, une politique de la municipalité au fil des différents maires de la ville d'ailleurs, hein, malgré les alternances politiques, pour mettre en place une vraie politique de transport.
Exactement. On veut faire de Medellín la nouvelle Silicon Valley et ça va faire plus de 20 ans que tout est fait dans ce sens. Elle vient justement d'obtenir un label même de création technologique et virtuelle internationale. Elle a aussi ce qu'on appelle un métro complètement connecté avec Transvia, c'est-à-dire le tramway, le métro câblé qui est le téléphérique et des bus connectés. C'est la première ville de Colombie à avoir le métro. La capitale ne l'a pas, alors que Medellín est une ville de province. C'est la capitale économique, mais ce n'est pas la capitale du pays. Et qu'elle est trois fois moins peuplée que la capitale même. Donc c'est vraiment, dès le départ, il y a 25 ans, on s'est dit, il faut projeter.
C'est le triptyque, donc. Hein, le téléphérique, on va en reparler, le tramway et le métro aérien. Et ces trois modes de transport sont interconnectés les uns avec les autres.
Complètement.
C'est bien ça.
Et ça couvre tant la rivière que les montagnes, ce qui permet aux plus pauvres de trouver du travail, de sortir des quartiers, de ne pas se laisser prendre dans les gangs, prendre dans la violence, et du coup revenir à une vie finalement plus stable économiquement.
Des urbanistes du monde entier viennent voir cette bizarrerie, le métro câblé, donc j'ai bien parlé du téléphérique, qui permet de descendre et de monter, puisque vous l'avez dit, hein, la ville est quasiment à la verticale, hein, de descendre et de monter entre les quartiers hauts des montagnes et puis la ville d'en bas. Et c'est une société française, Poma, qui est basée à Grenoble. On écoute Renaud Goria, directeur général de Poma Colombie, que vous avez rencontré.
Pionnier pourquoi ? En 2003, quand le projet fou, on aurait pu qualifier de la ligne K à Medellín, c'est parce qu'on est venu proposer à la municipalité et aux clients métro de Medellín un projet d'une télécabine en ville. Quant à cette époque-là, en fait, tout le monde les connaissait plus dans des environnements touristiques, si urbains, touristiques aussi, c'est-à-dire que ça pouvait être un système à proximité d'une ville, mais en aucun cas pour un transport massif de personnes, avec une grande capacité de déplacement de population, et surtout, jamais été imaginé au cœur de quartiers difficiles. Ça a été le moment clé, 2003, construction, et à partir de 2004, l'exploitation de ce premier appareil dans des quartiers qui étaient avec des grands problèmes de sécurité, d'insécurité justement, d'accès à l'emploi, des quartiers raides aussi, il y a une notion de topographie. Alors maintenant, c'est devenu presque un standard. Ici, on est en train de construire la sixième ligne, le sixième appareil qui s'appelle la ligne P, Picacho. C'est une petite montagne au nord-ouest de la ville.
Alors, pour bien comprendre, pour nos auditeurs, les voisins et les voisines qui nous écoutent et qui vous suivent, Najat Benrabah, à Medellín, puisque c'est là qu'on est aujourd'hui dans la ville en renaissance, cette société grenobloise Poma, ils font à l'origine des téléphériques pour les stations de ski, pour
exactement.
La neige. Et là, ils ont importé ce système, cette ingénierie qui est très bien faite, pour une ville et pour desservir donc des habitants entre le haut de la ville et le bas. C'est très impressionnant quand on monte dans les stations de ski. On appelle ça des œufs en fait, ce sont des télécabines.
C'est la même chose, ce sont des œufs. La différence, on va dire, c'est que là, on est dans un espace urbain, donc ils ont moins d'espace, parce qu'il y a des maisons, il y a des immeubles. Ensuite, il y a aussi le bruit. Un téléphérique en montagne, peu importe qu'il fasse du bruit, sauf que là, il fonctionne presque 14 heures par jour, dès le matin à 5 heures et jusqu'à 11 heures le soir.
Et il passe au-dessus des maisons,
donc. On ne peut pas faire du bruit avec un télécabine, c'est impossible. Donc, ils ont dû innover sur les câbles, innover sur les cabines, innover sur les hauteurs, sur le dénivelé. Imaginez que quand vous êtes en voiture, il y a des pentes, elles sont tellement dénivelées qu'on a l'impression qu'on est à 90 degrés et qu'on va tomber. C'est impressionnant. Et en moto, encore plus. Mais tout le monde circule avec des voitures et des busetta, comme on dit, des petits bus. Ça a changé leur ville téléphérique. C'est plus sûr, on a moins peur, c'est plus rapide.
Quand ils nous parlent d'un projet fou, il faut quand même bien se remettre. Ça a mis 15 ans hein, pour sortir, je dirais pas de terre, hein, mais pour que les fils traversent la ville dans le ciel. Mais au début des années 2000, il faut se souvenir que la ville de Medellín est aux mains des gangs armés qui s'affrontent pour le contrôle de la drogue.
Exactement, on est toujours dans cette terreur. Bon, Escobar est déjà mort depuis longtemps, les gangs se sont reconstruits,
hein.
Voilà, ça a changé. Mais la ville était à peine en train de se projeter. Donc c'était vraiment innovation pour ça. C'était un gros pari, des millions et des millions de pesos pour un transport dont les gens n'avaient pas la culture du transport en commun. Les gens là-bas, tout le monde a des motos, part en voiture, marche. Et surtout, comme ils étaient dans les collines, bah, tant pis, ils travaillent avec les gangs du coin. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'innovateur. On dirait aux gens, maintenant, vous aurez une culture transport, une culture métro. Et ça a été vraiment un défi. Oui. Aujourd'hui réussi, mais un gros défi.
Un défi auquel les habitants eux-mêmes des quartiers pauvres ne croyaient pas.
Complètement, d'ailleurs. Exactement. Il a fallu même faire des tarifs spéciaux pour eux, faire des conférences, des ateliers pour leur expliquer c'est quoi le métro, c'est quoi le téléphérique. On faisait des événements culturels, ils ont même fait des écoles du métro où on invitait les enfants du quartier à venir faire des activités pour comprendre c'est quoi le métro, monter dans un wagon, découvrir ce que c'était, pour que les gens finalement enlèvent cette défiance finalement vis-à-vis des autorités, vis-à-vis du transport. Ils ne connaissaient pas. Donc pour eux, c'était encore une manipulation, on n'en voulait pas, on ne veut pas, rien à voir avec les autorités, donc ils ne venaient pas. Et c'est les enfants finalement qui ont, entre guillemets, contaminé les parents, qui ont été convaincus, et petit à petit, voilà. Après, on leur a dit, c'est le travail, venez, il y a ci, il y a ça, et ça a changé complètement Medellín.
Et ce métro câblé, il est incroyablement propre. Hein. Il y a des dames qui passent, qui font le ménage dans les cabines en permanence quand les cabines s'arrêtent, hein, à l'arrêt, sur la plateforme, avant de repartir sur les câbles. Qu'est-ce que ça a concrètement changé sur la vie économique, sur la vie sociale et quotidienne des habitants de Medellín ?
Alors déjà, du gain de temps. Énormément de mobilité. La plupart des quartiers, comme on est en montagne, ils n'avaient que des escaliers pour descendre ou dévaler les pentes complètement. Ça prenait une heure et demie, aller, et pareil pour le retour. Là, par exemple, à San Javier, qui est un des quartiers qui a complètement transformé son visage aussi touristiquement parlant depuis ce métro, ils ont 20 minutes pour arriver au centre-ville. Avant, ils mettaient une heure et demie. Donc c'est là, ça change déjà beaucoup. Deux, l'accès au travail, parce que dans leur quartier, ils payent moins cher vu qu'ils sont dans un quartier social pauvre, donc tout est fait à leur niveau. Ils gagnent de l'argent dans un quartier qui est un peu plus élevé et reviennent ensuite dans leur quartier. Donc meilleure qualité de vie, gain de temps, la sécurité aussi, parce que du coup, ils ne passent plus dans les frontières invisibles, dans les gangs, dans les endroits où vous n'avez pas le droit de passer. Là, le transport en commun, il est sur une ligne sécurisée.
Ouais, dans les airs, dans le ciel. On entend un peu les ambiances que vous nous avez données, Najette. Hein. Là, on est dans les arrêts, hein, où il y a toujours un petit peu d'écho. Hein. Qui prend les transports publics aujourd'hui ? Uniquement les pauvres ou pas ?
Non, tout le monde prend le transport en public. Parce que Medellín souffre de sa beauté et de sa gloire et de sa croissance économique. Le trafic commence à devenir assez compliqué. Donc, le transport, si vous devez traverser la ville, le métro est le plus rapide. Il est aérien, donc c'est agréable. Il est très spacieux. Vous l'avez dit, il est très propre. Il y a même des policiers qui vérifient que personne ne mange ou boit dans le métro. Les gens sont très fiers, ils en prennent soin. Et puis, comme il fait chaud, c'est quand même, il y a la climatisation, c'est aéré. Donc, beaucoup de personnes le prennent. Les touristes aussi, puisqu'ils gagnent du temps aussi pour visiter toute la ville. Donc, et le téléphérique est le numéro 1, puisque c'est même une attraction touristique. Il faut le prendre pour aller au parc national de Harvey, qui se trouve au sommet de Medellín. Donc, tout le monde, touristes ou locaux, prennent métro et téléphérique.
Oui, c'est peut-être ça, justement, la rénovation urbaine. Hein. C'est de pouvoir organiser un peu ce brassage social dans une ville moderne, aujourd'hui, comme Medellín.
Complètement. Et ce qui change aussi même le quotidien des gens, la perception des autres, le partage dans la ville, et puis rend la ville plus agréable, ensuite, surtout pour ça.
Alors, ceci dit, quand même, point noir à Medellín, pour se déplacer, il y a la liberté de la moto, mais la moto, il ne faut pas se tromper, c'est quand même pour échapper aux embouteillages, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Medellín.
L'un des avantages, c'est l'économie de temps. Autre avantage, c'est moins cher de rouler en moto qu'en voiture. Par exemple, un parking pour une moto coûte quelques centimes. Je dépense environ 20 000 pesos, environ 5 euros par semaine en essence, alors que pour une voiture, je les dépenserai à chaque utilisation de mon véhicule. En plus, il est plus dur de trouver une place de parking pour une voiture que pour une moto. Et on peut acheter une moto pour entre 2 millions et 3 millions de pesos, environ 800 euros. Alors qu'une voiture, il faut compter au moins 30 millions de pesos. Ça fait une grande différence.
30 millions, c'est muchísima la diferencia. Creciendo, ha crecido unos años más que otros.
C'est en pleine croissance. Il y a eu des années de plus forte croissance que d'autres. En ce moment, ça n'atteint pas le niveau d'il y a quelques années, mais malgré tout, ça poursuit sa croissance. N'importe quelle personne possède une moto, toute catégorie sociale confondue. C'est un moyen de transport utile. Beaucoup d'entreprises l'utilisent, mais aussi les étudiants et même les touristes. Beaucoup arrivent en Colombie, achètent une moto et partent en voyage à la découverte de la Colombie à moto.
Colombia y quiere pasear Colombia y compran una moto para ir a conocer Colombia.
La foire des deux roues a débuté ici à Medellín il y a 8 ans, si je ne me trompe pas, et ça a beaucoup évolué, énormément évolué. Avant, on avait principalement les constructeurs brésiliens, certains argentins, les japonais et les marques classiques européennes. Mais maintenant, le marché est inondé par les produits chinois, par les entreprises chinoises, les constructeurs de Chine et les marques de Chine.
Medellín, la ville en renaissance avec vous, Najette Benaraba. Quand on parle de ville industrielle, c'est une ville, on est dans un pays qui effectivement a une industrie de la moto.
Alors, il y a industrie de la moto, mais surtout industrie textile. Medellín, ça a commencé comme ça. Les premières tours, ce ne sont pas les narcos qui les ont construites, mais plutôt les industriels, les propriétaires terriens qui ont fait du coton leur marque de fabrique. Et du coup, ensuite, industrie automobile, Renault est sur place, Yamaha, Suzuki, les motos. Donc, autour de la vallée, vous avez beaucoup, beaucoup d'usines.
Ouais, et beaucoup d'embouteillages, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, Medellín, ça a été d'abord une folie du béton, finalement, ces 30-40 dernières années, et une folie de la voiture. Tout a été pensé pour la bagnole.
Et c'est très américanisé, finalement. La Colombie est un pays assez américain. On fait tout en voiture, on ne marche pas. Il fait chaud, donc on ne veut pas transpirer.
Est-ce qu'il y a même des trottoirs à Medellín?
Ah si, il y a des trottoirs. Ils sont très, d'ailleurs, vélos, maintenant. C'est un pays cycliste. Hein. Vous savez qu'il y a il a gagné le Tour de France, justement. Mais pour le coup, c'est quand même, un pays à vélo. Mais marcher, c'est vrai que non. C'est pas vraiment dans la culture. Seulement, les touristes marchent beaucoup, les Colombiens pas tant que ça. Et donc oui, le trafic est compliqué. Et surtout que comme c'est plat, on a bien dit que c'était une vallée, les routes principales, on va dire comme le périphérique comme parisien si vous voulez, se fait au bord de la rivière. Donc tout se bouchonne. Le matin, de 6h du matin à 9h, pas possible. Le soir, de 4h à 6h, pareil.
Ouais. Et alors on entendait cet habitant de Medellín qui disait les touristes arrivent, louent une moto et partent à la découverte de la Colombie à moto. C'est quand même une image de liberté. On a du mal à imaginer ça quand on pense qu'on est aussi dans un pays qui a connu la guérilla avec les FARC et ses enlèvements tragiques.
En fait, même durant le conflit armé, le tourisme était là. Vous avez des zones, entre guillemets, comme on dit, de non-droit, où là, personne n'y va, ni local, ni étranger. Mais il y a des routes qui ont toujours été touristiques. L'étranger n'a pas été, entre guillemets, mis en danger, même durant le conflit armé. C'était vraiment interne. Donc, on est quand même vers la Cordillère des Andes, il faut le dire. C'est un pays andin, donc il y a beaucoup de relief. Le transport terrestre est compliqué. En bus, on perd beaucoup de temps parce qu'il faut contourner les reliefs. En moto, c'est au contraire agréable. Donc, les étrangers qui arrivent principalement d'Europe et des États-Unis font ça. Ils achètent même la moto et traversent l'Amérique latine et la revendent au Panama pour après rentrer en Europe. C'est très classique.
Et qu'est-ce que la fin du conflit avec les FARC a changé dans la vie quotidienne à Medellín ?
Dans la vie quotidienne, pas grand-chose. Et comme beaucoup m'ont dit quand je suis arrivée en 2015, juste avant la signature des accords de paix, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours de la violence et autres. Mais ce que ça a changé, c'est une ouverture avec l'esprit de se dire, voilà, maintenant on peut accueillir tout le monde, il n'y a plus de terreur, il n'y a plus de crainte au quotidien pour les étrangers. Et nous, on peut enfin faire les choses sans avoir peur d'être kidnappés, tués ou d'une bombe ou autre. C'est une sérénité, disons, sur le futur, une projection. Mais au quotidien, pas grand-chose, je dirais, vraiment. En tout cas, Medellín.
Najat Ben Rabah, vous signez le programme musical de cette émission. Medellín, la ville en renaissance, c'est aussi pas seulement un système révolutionnaire de transport dans toute l'Amérique latine, mais c'est aussi la capitale mondiale du reggaeton. On danse le reggaeton tous les week-ends en discothèque.
Música de la IECA, de Medellín para todo el planeta, para que sepan como en la tower, vengo de Tefren con todo el power. Música de la IECA, de Medellín para todo el planeta, para que sepan como en la tower, vengo de Tefren con todo el power. Me parcho en la causa, hacer music pues esa es mi causa. No pongo pausa, lo escuchan, lo pillo, lo gozan. Los polis se va por live stream, bien bachimito al lip. Y ya está, ya se armó el chepar. Pa' las que están en la urba y en el que paren la saca. Pasando la resaca y pa' los que les gusta darse la besaca. Los despacho por celulacho desde la partacho. Si quieren parlacho yo perlacho. Pa' el muchacho que sale borracho con vinacho. Mirar a Medellín desde el picacho. Lo sabe la gente y lo sabe la people, que con este álbum yo les metí gol. Como un calidoso, como una fiera de Medellín City para el planeta Tierra. Música de la IECA, de Medellín para todo el planeta, para que sepan cómo en la tower, vengo de Tefren con todo el power. Música de la IECA, para que sepan cómo en la tower, vengo de Tefren con todo el power. Con todo el power, con todos los fierros, con todos los ritmos y con todo mi perro. Con toda la salsa, con todos los quesos, con toda la carne y los aderezos. Esa es la receta que se cocina pa' todo el planeta desde la esquina. Pa' la gente en los barrios y en el trocen. Aquí se la traigo para que la gocen y pa' que reposen la mela. Les ofrezco esta melodía que está mela. Me la craneé y espero que no falle pa' hablarle al mundo de Medallo y sus calles. Les estoy hablando en mi siete. Lo llevo de norte a sur y por el tour del graffiti. Expresándome con jerga local, represento a Medallo a nivel global. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Música en Medallo, parce, con todo el power. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Que Medallo no es Pablo Escobar, hay una historia mejor que contar.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est bien en direct sur RFI avec Najat Ben Rabah qui nous raconte la ville de Medellín en renaissance. On vient d'entendre une des stars du reggaeton, Maluma, qui chante.
Medellín.
Oui.
Medallo, c'est le surnom de Medellín. Il est natif de Medellín. Et beaucoup de chanteurs qui sont des stars de ce genre musical urbain qui est vraiment jeune, qui date de à peu près les années 2000, sont nés à Medellín. Lui et J Balvin sont des références. Puis aussi, bon, bah, faut le dire, hein, des beaux gosses, donc ça fonctionne encore mieux. Maluma a chanté avec Shakira, justement, et on en fait, ouf, rappelez-vous, il y a deux ans, à l'été, avant la pandémie, l'été Maluma-Shakira, c'était bien chaud aussi en Europe.
Et voilà, il a chanté avec Madonna, en effet. Maluma, vous signez le programme musical hein, de cette émission, Najat Benrahma. Maluma, franchement, les voisins et les voisines, allez voir le clip. On vous a mis tous les liens sur nos réseaux sociaux. Beau gosse, comme vous disiez, super tatoué, super musclé, les cheveux peroxydés. Et puis le clip, c'est une vue panoramique sur les gratte-ciels de la ville, au milieu des montagnes immenses. On est vraiment à Medellín.
Là, c'est une publicité même pour Medellín. Il l'a fait vraiment en honneur pour Medellín. Il en a fait deux des chansons. Celle-ci, qui est vraiment colombienne, parce que du coup, il défend la Colombie. Il signe à la fin de la chanson, justement. Medellín, c'est plus que Pablo Escobar. On a plus à raconter. Pour vous dire, vraiment, chauvin à fond, complètement, pour Medellín, pour les paisas. Il y a vraiment des mots typiques de là-bas. Et il a fait une autre chanson avec son Medellín, aussi, de même titre, Medellín, avec Madonna, rien que ça, la reine de la pop. Donc, quand on est paisa, c'est plus qu'être colombien.
Paisa, c'est habitant de Medellín.
Habitant de Medellín, hein. Quand on est paisa, c'est encore plus fort. Et partout, on en est fiers, puisque maintenant, Medellín, c'est la capitale du reggaeton.
C'est ça. Mais alors, c'est quoi ce reggaeton exactement? Moi, je ne savais pas que c'était colombien à l'origine.
Ce n'est pas vraiment colombien, on ne sait pas d'où c'est sorti vraiment. C'est un mélange de Porto Rico, de Panama et de la Colombie, avec de la dancehall et de la musique urbaine, un peu pop. Et ça donne le reggaeton. Voilà. Il y a aussi un peu de dedans, il y a du... C'est une musique urbaine pour se relaxer entre amis. Il n'y a pas vraiment de danse, c'est plus pour se frotti-frotta, comme on dit là, pour le coup.
Alors, c'est quand même très machiste, très misogyne.
Oui.
Et alors, et ça veut dire quoi dans la réalité des relations entre les garçons et les filles à Medellín?
Ah, ça c'est compliqué. Disons que le mouvement
c'était
féministe...
C'était la question piège qu'on avait.
Pas du tout. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vu évoluer avec le combat féministe en Colombie. C'est un pays qu'il faut le dire toujours très macho, mais le féminisme est là et ça va faire une dizaine d'années que ça évolue extrêmement chez les jeunes. Elles prennent le pouvoir. Et en reggaeton, vous avez des chanteuses aussi, Karol G est la référence de reggaeton féminine et elle en impose, c'est elle qui a le pouvoir.
Ouais. En attendant, on écoute un directeur de discothèque parce que quand même les nuits sont bien chaudes à Medellín.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Sander Vega, representante de Luxury Club Medellín aquí en Colombia.
Sam Valdega, représentant de Luxury Club Medellín en Colombie. La Luxury est une discothèque de musique urbaine qui existe depuis 6 ans. On propose de la musique urbaine, reggaeton, dancehall, hip-hop et un peu de musique électro. Le reggaeton rencontre un grand succès à Medellín, car c'est une des villes colombiennes référence de ce genre musical. C'est si important que les chanteurs portoricains viennent tester leurs nouvelles chansons ici avant de les mettre sur le marché européen et américain. Medellín compte les meilleurs artistes du genre comme J Balvin, Maluma, Kevin Roldan. Ils ont tous débuté ici. Le reggaeton a un grand succès à Medellín. Ça fait 6 ans qu'on propose le reggaeton. C'est une grande fête urbaine. C'est ce qui s'écoute le plus à Medellín. Même s'il y a d'autres genres musicaux, le reggaeton est celui qui plaît le plus. Il mène la danse.
Hay otros géneros, pero el reggaetón como tal es el que manda la parada.
Voilà, le reggaeton, un week-end sans reggaeton, c'est pas pensable.
Ah bah non,
hein.
C'est impossible.
Pour tout le monde, pas que pour les jeunes.
Ah oui, non, là, pour tout le monde, c'est une danse. Après, comme on dit, il y a beaucoup de discothèques crossover. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, salsa, merengue, bachata. Vous pouvez pas y passer.
Ça, c'est pour les vieux, c'est ça?
Non, les jeunes aussi. Détrompez-vous. On peut avoir 20 ans et 26 ans et danser très bien la salsa. Moi, qui est d'ailleurs fan de salsa, je suis surprise. Je peux danser avec tous les âges. Au contraire, la salsa est plus sur la capitale, à Cali, on va dire. C'est la capitale où il y a vraiment tous les festivals. Mais Medellín, quand même, danse salsa, danse bachata, bon American. Mais ouais. Reggaeton reste le style urbain.
Alors, il faut quand même qu'on parle de la sécurité à Medellín, parce que depuis le début, vous nous parlez de cette ville en renaissance. Les sorties en boîte à Medellín, est-ce qu'il existe toujours des panneaux pour rappeler que les armes à feu sont interdites à l'intérieur?
Alors, pas non. Ça, non. C'est fini. Par contre, vous avez toujours dans les hôtels les panneaux qui disent non au tourisme sexuel. Ça, par contre, oui. Ensuite, on vous préviendra toujours, ne prenez pas à boire de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne laissez jamais votre verre vide. Ça aussi, bien sûr, la scopolamine, qui est une drogue qu'on utilise pour complètement prendre le contrôle sur les gens, est là. Donc, il faut faire attention, on le sait. Et surtout, on vous dira, le plus important, ne pas sortir le téléphone dans la rue. Il y a un dicton chez les paisas, c'est « no dar papaya », ne pas donner la papaya, ce qui veut dire ne pas attirer l'attention. Un téléphone dans votre main, surtout si c'est un iPhone ou un smartphone immense, ce sera braquage avec une arme. Régulièrement, ça par contre,
ça arrive. C'est pas un petit vol à l'arraché, c'est donc tout de suite vraiment... un braquage. Rouler de nuit à Medellín, prendre un taxi à Medellín, ça se fait ou pas?
Je le fais, je suis une femme célibataire, sans problème, je rentre chez moi. Après, on a des réflexes par moment. Par exemple, si mon ami me laisse, je prends la photo de la plaque d'immatriculation du taxi, ou je lui envoie un message quand j'arrive à la maison.
Ah oui, quand même.
En fonction de l'heure et où on rentre, on fait quand même attention, oui.
Le taux d'homicide à Medellín, moi j'ai lu que finalement aujourd'hui il était bien inférieur au taux d'homicide de villes américaines comme Saint-Louis, Baltimore, la Nouvelle-Orléans ou Détroit. C'est vrai que finalement ça n'est pas si important que cela?
C'est même une des transformations de Medellín avec le métro. On est passé de plus de 380 morts dans les années les plus noires, et notamment avant le métro.
Par jour
sur l'année, ça fait quasiment un mort par jour. À aujourd'hui, une cinquantaine officielle. Donc c'est la preuve de l'évolution de Medellín et de la Colombie sur ce thème-là, et de la transformation de Medellín. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment régulier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort à Medellín, il y en a, vous avez des homicides.
Comme dans toutes les villes du monde.
Comme dans toutes les villes, vous allumez le Caracol TV, qui est la chaîne nationale, il y en a, c'est pas ça. Mais c'est plus comme avant, où réellement, tous les matins, on comptait les morts.
Quitter Medellín le week-end, Najed Benrabah, pour retrouver la nature, pour se reposer. Que font les paisas, comme vous dites, les habitants de Medellín? Font les paisas le week-end?
Ils vont à la finca, ce qui veut dire leur maison, leur deuxième maison de campagne. Tout le monde va à la finca, la propriété avec un grand
pour
terrain.
Pour les classes aisées ou moyennes?
Presque tout le monde, même les moyennes, vont partir dans les petits villages, prendre l'air. S'ils n'ont pas de maison, ce n'est pas grave. Ils vont faire un tour dans le village, manger, marcher, visiter et revenir ensuite, oui. Il y a l'effet vraiment urbain, on laisse la ville pour aller en campagne, sachant que Medellín, vu qu'elle est colline, on est en une demi-heure déjà dans la campagne.
Serait-ce qu'avec le téléphérique.
Ne serait-ce qu'avec le téléphérique, c'est suffisant pour aller à Santa Elena, où là, c'est verdure à foison, et c'est justement le nid des floriculteurs. Donc là, il y a des fleurs partout, c'est vert, et c'est dépaysement complet.
On n'a pas encore dit que Medellín, avec cette fameuse renaissance, c'est une ville qui collectionne les prix pour son innovation urbaine, pas seulement pour son système de transport.
Exactement, aussi pour tout ce qui est innovation dans l'immobilier, construction, le transport était le premier des prix, mais ensuite aussi dans l'évolution technologique et autres. Donc elle sélectionne en effet les prix, tant américains qu'européens. Je crois qu'elle en a maintenant 4 ou 5 à peu près.
Medellín d'ailleurs a bien su tirer parti de cette innovation grâce à des prêts, l'Agence française de développement. Les bailleurs sont attirés par Medellín parce que Medellín est une ville qui rembourse bien ses emprunts.
Le métro même a été construit comme ça par un consortium germano-espagnol. Tout est fait de l'investissement étranger et justement, c'est dans l'intérêt de Medellín d'être présente dans l'innovation de la technologie pour montrer que voilà, on est capital économique, investissez ici, c'est retour sur investissement rapidement. Au bout de 5-6 ans, vous avez déjà retour sur investissement.
Et Medellín a tellement bien appris à communiquer que la ville est bien situé finalement dans les classements internationaux, ville où il fait bon vivre. Y a des retraités américains qui s'installent maintenant à Medellín?
Exactement, depuis longtemps, mais il y a même un visa spécial pensionnaire. Donc il y a une relation vraiment entre les deux pays où le pensionnaire va déclarer ce qu'il dépense en Colombie aux États-Unis. Donc c'est complètement un système légalisé entre les deux pays. Et oui, il y a l'Eldorado, on va dire, pour les retraités qui viennent s'installer. Sachez que la vie à Medellín coûte très peu cher comparé aux États-Unis, par exemple. Les Colombiens, on va dire, qui aisés, vivent avec 500-600 euros par mois pour être bien. Un retraité américain a une bourse de 2000 euros par mois. 2500 dollars à peu près, donc 2000 euros par mois. Il est le roi du pétrole, comme on dit. Là, pour le coup, c'est vraiment les beaux restos, le bel appart avec piscine, résidence. Il peut presque même se payer un chauffeur à ce prix-là. Le climat est printemps éternel, donc jamais trop chaud, jamais trop froid. Il y a du soleil toute l'année, donc ça aide.
Alors, si Medellín est une ville très peu chère pour notamment les Nord-Américains, c'est parce qu'en fait, les salaires sont très bas. Ça, c'est le revers de la médaille.
Ah, exactement. C'est bon pour les expatriés, les étrangers, les touristes. C'est très bon marché, mais pas du tout pour un Colombien. Un Colombien, au mieux, s'il a un salaire fixe minimum de 260 €, c'est déjà bien. Beaucoup gagnent même pas 5 € par jour. Donc, c'est très, très compliqué pour les strates économiques les plus basses. La Colombie est très chère, sachant que tout ce qui est restaurant, vêtements, sorties, c'est presque un niveau européen en termes de dépenses. Donc, pour un Colombien qui gagne 260 € par mois, vous imaginez bien que ce n'est pas possible.
Ça veut dire que pour un couple, lui, par exemple, chauffeur de bus, elle, personnel de ménage, c'est une toute autre vie, Medellín.
Non, ce n'est pas si catastrophique à ce niveau-là, on va dire. Mais ce n'est pas aussi royal que pour un étranger. Il va en profiter, mais différemment. Pas dans les mêmes lieux qu'un étranger. Il ne dépensera pas dans les mêmes restaurants. Mais il sortira quand même, il vivra quand même à la finca, dans le petit village. Il sortira boire et faire la fête tous les week-ends.
Oui, le reggaeton, c'est bien pour tout le monde. Ça, on est d'accord.
Et l'alcool aussi.
Et la cuisine, alors, Najed Benrabah?
Alors, la cuisine, ça, c'est un autre univers. Oubliez la gastronomie européenne et la diversité. C'est vraiment le point à peine en développement aujourd'hui. Il y a des plats typiques, mais c'est assez lourd, pour être honnête. La bandeja paisa, par exemple, c'est 5 protéines avec des haricots rouges, du riz, tranches de porc, les œufs, la saucisse. C'est bien lourd. Ouais. C'est purement paisa, mais c'est assez lourd.
Et pourtant, les fruits et légumes devrait pousser avec le climat.
Ça, par contre, si, il y en a énormément, mais dans la culture, ils sont très carnivores. On est en montagne, donc c'est quand même beaucoup d'agriculteurs. On mange ici pour tenir la journée de travail. On se réveille, les Colombiens commencent à 6h30 le matin au bureau, 6h30, 7h, et finissent tôt à 4h parce que le soleil se lève plus tôt. Donc on veut de la nourriture qui donne de l'énergie, pas forcément pour bien manger, on va dire.
Et donc on mange comme pour aller cultiver, sauf qu'on va passer sa journée devant un ordinateur, donc on prend quelques kilos.
Un petit peu quand même, faut le dire, exactement.
Najed Benrabah, un jour peut-être vous quitterez Medellín, vous qui habitez là depuis 6 ans.
Oui, déjà 6 ans, mais c'est passé très vite.
Qu'est-ce qui vous manquera le plus ou qu'est-ce qui vous manque déjà quand vous êtes loin de Medellín? Est-ce qu'il y a une mélodie? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des voix?
C'est principalement les gens. Les Colombiens, je dirais qu'ils sont encore loin d'être fatigués du tourisme parce que c'est tout nouveau pour eux. Ça va faire 25-30 ans à peine que vraiment le tourisme se développe. Donc ils sont contents de voir arriver les étrangers, ils sont très accueillants. Quand vous arrivez à Medellín, on a l'impression d'être à la maison. Et encore plus, si vous parlez un peu espagnol, ils sont tellement contents d'écouter votre accent qu'ils font tout pour vous aider, même s'ils ne comprennent rien. Je trouve ça vraiment unique en Colombie. J'ai voyagé dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et cette chaleur humaine, ce sourire, ce tranquille, tout ce qui se passe est tranquille, no stress. C'est vraiment bien en Colombie et à Medellín, qui est étranger, reste justement. L'autre dicton colombien, c'est « El único riesgo en Colombia es quedarse ». L'unique risque en Colombie, c'est d'y rester.
Et c'est ce que vous faites, Najed Benrabah. Ce côté extrêmement convivial de Medellín, ça peut être une façade aussi. Il y a quelque chose de plus dur derrière ou de plus excluant ou pas?
C'est pas forcément plus excluant. Je pense que c'est plus pour eux un outil de résilience. Oui, il y a de la violence. Oui, on a une histoire difficile, mais on veut avancer. Donc, alegría, sourire, joie et on avance.
Eh ben, c'est ce qu'on a fait tout au long de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous un peu de cette vie à Medellín, Najed Benrabah. Dans quelques instants, ce sera le journal. Juste avant, je vous donnerai une autre étape dans la ville de demain. Et n'oubliez pas, les voisins et les voisines, d'aller sur notre page Instagram. Il y a un petit quiz qui vous attend sur Medellín, si vous avez bien écouté tout ce que vous a raconté Najed Benrabah. Dernier choix musical pour la ville en renaissance, Najed, puisque c'est vous qui signez le programme musical.
Camisa Negra de Juanes, natif de Medellín aussi.
Un tube très latinos. Allez voir le clip, là aussi ça vaut le coup. On a mis le lien sur nos réseaux sociaux. On est au royaume des bimbos en mini-short et c'est vraiment difficile de pas faire la fête à Medellín.
camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy está una pena y es por culpa de tu embrujo. Ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solté y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber de cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita.
Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber.
Juanes, Camisa Negra, si avec ça vous n'avez pas envie de faire la fête, alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. En tout cas, merci de nous envoyer vos réactions, les voisins et les voisines, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. La vie à Medellin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe aussi qui prépare cette émission. Raphaël Pluxva, Gwendal Lavina, David Broquet à la réalisation. Et puis vous pouvez réécouter toutes nos émissions, en particulier la série d'été où on change de ville tous les jours, en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et une fois que vous les avez téléchargées, vous pouvez les réécouter, y compris si vous n'avez pas de connexion Internet. N'oubliez pas ça. Demain, les voisins et les voisines, demain, une autre ville, une autre étape, une autre vie quotidienne. Vivre dans une ville en chantier. Vivre dans une ville en chantier. Demain, nous serons à Tanger, au Maroc. À demain, les voisins et les voisines.
Retrouvez du lundi au vendredi le journal d'Haïti et des Amériques. Toute l'actualité de Port-au-Prince à Washington, mais aussi La Paz.